Kodesh, Shabbos Kodesh, Yidela, prepare for Shabbos Kodesh. Joy is in the air for Shabbos Kodesh. Everyone with a soul aflame to meet the Shabbos Kodesh. Everyone with a role to play to greet the Shabbos Kodesh. A priceless gift, a spiritual lift. Everyone finds a way to assist. Do whatever they can do for the Shabbos Kodesh. A pleasure for the
Bonjour à tous et bonjour à toutes, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de commentaires de la Paracha, toujours avec comme plaisir le grand rabbin Harold Avraham Weil. Bonjour monsieur le grand rabbin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, d'avoir accepté, malgré votre programme très chargé, d'être avec nous. Aujourd'hui, nous dirons, enfin demain, nous irons la Paracha de Kedoshim, l'allumage des bougies. Entre 19h18 et 20h32, et demain, la fin du Shabbat à partir de 21h48. Tout est bon, M. Romain ?
Impeccable.
Alors, on souhaite, comme chaque semaine, un refouage chez les mains à tous nos malades, et un Shabbat Shalom particulier à nos aînés et aux personnes isolées. Une émission que dédions aujourd'hui aux trois victimes de la tuerie d'Elad. Un bon, M. Romain, encore une fois.
Écoutez, c'est l'effroi, hein, c'est l'effroi. On se demande toujours quand est-ce que ça va s'arrêter. Et puis, bien sûr, la concomitance entre cette tuerie abominable d'hier et les célébrations de Yom Hatzmaout, forcément, ça fait réfléchir. Et le fait que les assassins n'aient pas encore été arrêtés pour l'instant, vraiment, nous prions pour que ce soit le cas le plus rapidement, pour qu'il y ait un peu plus de sérénité, parce qu'on peut à peine s'imaginer l'ambiance de stress qui existe actuellement, sachant que eh bien, cette course infernale n'est pas terminée. Et ne serait-ce que pour essayer d'appréhender un petit peu ce Shabbat Kedoshim dans de bonnes conditions, on prie vraiment du fond du cœur pour qu'il soit rapidement arrêté. Bien sûr, vous l'avez dit, émission dédiée aux victimes, mais également l'émission dédiée à la Refoua Shlema, des très nombreux blessés de cet attentat. Je pense qu'il ne faut pas les oublier. Un certain nombre lutte de manière vraiment extrêmement intense en ce moment pour rester en vie. C'est des personnes, et malheureusement nous l'avons vu avec les victimes, souvent mariées avec un très grand nombre d'enfants, ce qui fait un très grand nombre d'orphelins. Et vraiment, nous prions du fond du cœur pour que nous n'ayons pas d'orphelins supplémentaires.
Amen. On va quand même terminer cette éphéméride par une bonne nouvelle, la venue dans ce monde de Ava, Ava qui est la fille d'Elsa de Jordan Hausrat, petit-fils de Monsieur Marciano de Toulouse et de Geneviève et Richard Hausrat, que je salue particulièrement. Et donc, Mazal Tov à Jordan, à son épouse et à Ava qui est née le soir de la Mimouna. Voilà, Mazal Tov à eux. On va donc commencer à parler de la Paracha. Juste avant, Monsieur le Grand Rabbin, depuis maintenant quelques semaines, toutes les semaines, sur les réseaux sociaux, dans mes amis, on me dit il faut que tu poses la question à Monsieur le Grand Rabbin, qu'en est-il du Hérouv ?
Alors j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle pour toutes les auditrices et les auditeurs, c'est que les travaux touchent à leur fin. Donc nous ferons, nous l'espérons très prochainement, une annonce, un communiqué officiel, bien sûr qui sera le seul communiqué valable pour pouvoir à nouveau porter et pour que l'information ne parte pas dans tous les sens. Il faut savoir, et je le dis, nous ferons un communiqué beaucoup plus détaillé, sans doute dans un deuxième temps, peut-être même un numéro de Shabbat Shalom spécialement consacré à ces travaux et à cet épisode du Hérouv, que cela a nécessité des dizaines d'heures de travail sur le terrain d'une équipe composée de 5-6 personnes. Donc il faut bien se représenter un petit peu non seulement de l'ampleur du travail, mais des efforts qui ont été investis pour que ce dispositif puisse à nouveau être fonctionnel.
C'est quoi la bonne nouvelle ?
Alors la bonne nouvelle, je pense que c'est une histoire de jour vraiment. On communiquera en tout cas très prochainement. Quand je vous dis que ça touche à sa fin, ça touche vraiment à sa fin. Il faudra encore bien sûr, vous l'imaginez, faire la totalité du tracé pour vérifier toutes les réparations qui ont été faites. Mais vraiment, nous sommes sur la bonne voie. Et voilà, je ne veux pas donner simplement des chances, pas parce que je n'ai pas des chances précises, simplement que je ne veux pas qu'on se base sur cette information pour pouvoir se donner des libertés.
Donc, très bien,
sachant que le communiqué sera véritablement le seul à même de pouvoir garantir la fonctionnalité du Hérouve, mais en tout cas, sans encore une fois vouloir trop en dire, c'est pour très 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 bientôt.
D'accord. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, et le mois dernier, enfin la semaine dernière, on aurait été dans le mois d'Iyar, Rosh Chodesh. Iyar, c'est un mois où il y a Yom HaShoah, il y a Yom HaZikaron, il y a Yom HaSmaout. On va voir dans quelques semaines, on parlera les lulotes. Comment on peut définir ces événements, c'est le désespoir et l'espoir, l'histoire et l'espoir, comment vous définissez
alors,
ça?
Vous m'avez interrogé sur la proximité qui a été choisie, c'est un choix bien sûr qui a été fait alors, de manière arbitraire, mais bien sûr volontaire en Eretz, de pouvoir bien placer ces cérémonies de Yom HaZikaron et de Yom HaTzmaout, de pouvoir les mettre à proximité, même plus que ça, de faire en sorte que les cérémonies de Yom HaZikaron se poursuivent par celles de Yom HaTzmaout. Donc bien sûr, il y avait la volonté de montrer que chez nous, même les événements les plus tragiques, ça a été le cas dans toute notre histoire, eh bien, n'ont jamais été finalement un coup de grâce, quelque sorte, pour le clan Israël. Il y a toujours une volonté de se reconstruire, toujours une volonté de pouvoir dépasser les événements. Et lorsqu'on pense à ces milliers de familles endeuillées, plusieurs fois endeuillées d'ailleurs, parce qu'on connaît un certain nombre de familles en Eretz Israël qui ont perdu plusieurs enfants lors de conflits différents. Donc c'est ça ce qu'il faut imaginer. On peut déjà imaginer l'horreur de perdre un ou deux enfants dans un même conflit, mais lorsque à plusieurs années d'intervalle, cette expérience douloureuse se répète, et rappelons que nos soldats, souvent en 18, 19 ans, 20 ans, ce sont vraiment encore de jeunes enfants tout juste sortis de l'adolescence qui n'ont pas encore pu construire de famille. Certains, lorsqu'ils avaient pu construire une famille, eh bien, avaient une épouse toute jeune, éventuellement un ou deux enfants en très bas âge. Et donc, on s'imagine à peine donc, des tragédies sans nom, mais il y a cette volonté de se projeter, comme vous l'avez dit, dans l'espoir, dans ce qui fait que nous sommes encore là aujourd'hui. Et c'est véritablement sous cet angle, en tout cas, qu'on doit aborder la proximité entre ces événements. De la même manière aussi, vous avez parlé des Hiloulot. Bien sûr, l'une des Hiloulot correspond avec l'Akba Omer. De la mer, nous le voyons que dans une période, cette période du Omer, qui là aussi vient commémorer une tragédie immense, puisqu'on a tendance à oublier donc que c'est 24 000 élèves. On n'arrive même pas à se représenter. On se demande même toujours quelle serait la capacité à remplir une salle. 24 000 élèves, c'est énorme. Je donne à titre de comparaison, quand on pense que notre grande synagogue est déjà gigantesque, peut accueillir environ 1500 personnes. Imaginez l'espace qu'il faut pour pouvoir accueillir 24 000 personnes, donc 24 000 élèves d'un niveau, on le sait, extrêmement élevé. Et là aussi, des familles entières. Hein. Quand on pense à 24 000 élèves, on s'imagine toujours 24 000 enfants. Non, c'est 24 000 élèves qui, pour beaucoup, avaient des familles, mariés, des enfants. Donc c'est aussi des familles, des histoires qui sont bouleversées. Et cette tragédie donc, qui va en tout cas prendre fin, ou d'après une discussion pour savoir si c'était simplement on va dire un moment de répit ou si c'était vraiment la fin de l'épidémie, quoi qu'il en soit. Eh bien, il y a une pause. Il y a une pause, il y a une respiration possible, finalement, dans cette souffrance qui pourrait, si jamais il n'y avait pas cette force, ce supplément d'âme, s'il n'y avait pas cette capacité à voir loin, eh bien, qui aurait pu mettre véritablement un coup d'arrêt à l'histoire du clan Israël. Mais il y a toujours cette force que nous avons à trouver ce second souffle qui nous permet d'aller de l'avant. Et je pense que l'Akba Omer est également l'expression de cela.
On en parlera en temps et en heure. Le commentaire de la paracha, le résumé de la paracha de cette semaine Kedoshim. On vous écoute, M. Grand Rabbin.
Alors, une paracha très courte, mais une paracha très, très intense, puisqu'elle elle comporte, cette paracha, un très, très grand nombre de commandements, de mitzvot. Vous le savez, on a eu l'occasion de le dire à de nombreuses reprises à ce micro. Les mitzvot, les commandements, ne sont pas répartis de manière équitable au travers donc, des différentes sections de la Torah, puisque sur les 54 sections que nous avons dans la Torah, qui nous exposent les 613 mitzvot, eh bien, certaines ne comportent aucun commandement. C'est le cas de la plupart des sidrotes du premier livre, du livre de Bereshit, de la Genèse, qui est narratif. Tandis que dans cette paracha de Vaïkra, eh bien, nous aurons plus de 50 mitzvot. Donc c'est énorme, ça représente sur ces 613 mitzvot, quasiment donc un sixième des mitzvot qui est contenu dans cette paracha de Kedoshim, qui pourtant n'est pas très très longue, puisque souvent d'ailleurs on l'associe à la paracha de l'Élu en même temps que la paracha d'Acharemot. Mais donc une paracha, on l'a dit, courte mais intense, qui va enchaîner les commandements. Testament et principalement ici donc les commandements qui régissent les rapports entre les hommes avec certains donc particulièrement connus. Alors bien sûr, on va démarrer sur la notion du Shabbat, du respect des parents et on va y revenir dans un instant, mais après donc un certain nombre de commandements qui concernent les dons aux pauvres, l'honnêteté bien sûr dans le commerce. Malheureusement, ce sont des mitzvot qu'on a tendance à trop négliger. On pense souvent à son rapport avec Dieu, à la chose qui concerne la tefila, qui concerne la prière, les fêtes, etc. Et on oublie qu'il y a un très gros tome dans le Shulchan Aruch qui est consacré aux lois commerciales et à l'honnêteté qui accompagne donc eh bien ces rapports que l'on entretient dans le commerce. Bien sûr, la fameuse mitzvah de Ve'avta le'racha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et à la fin donc de notre paracha, eh bien nous trouverons donc un certain nombre de onshim, un certain nombre de rappels par rapport à la gravité de l'inceste, de relations interdites d'une manière extrêmement extrêmement large. Et donc c'est là-dessus que s'achèvera notre paracha.
Alors au tout début de la paracha, il est dit « Soyez saint parce que moi je suis saint l'Éternel ». Question, comment moi je peux être aussi saint que l'Éternel ? C'est un peu compliqué, non ?
Alors, vous posez une bonne question. La réponse commence déjà par la traduction de ce terme « Kedoshim Tiyu », alors qu'on traduit en français par « Vous serez saint », parce qu'on a du mal à trouver un terme qui puisse traduire justement la notion de Kedusha. Malheureusement, traduction est souvent trahison, et nous en avons la preuve au travers de cette traduction extrêmement laide, et extrêmement, en tout cas, pourquoi je dis laide ici ? Parce qu'elle est en réalité très infidèle. Elle ne rend absolument pas compte de ce que représente le terme de Kedoshim, surtout que ça renvoie à un concept donc qui est enfin loin de l'idée qui est celle véhiculée par la Torah. La Kedusha ici dont il est question, et d'ailleurs Rashi l'expose très bien, c'est un des Rashi les plus célèbres de la Torah. Lorsque la Torah nous dit Kedoshim Tiyu, donc qu'on traduit mal par soyez saints, Rashi nous dit en réalité, il faut le comprendre par Evo Prushim Minariot, soyez séparés. Alors, nous le savons effectivement, la Kedusha c'est une séparation. C'est une séparation entre un mode de vie profane et un mode de vie qui va plus loin, un mode de vie qui nous donne des aspirations qui sont plus élevées, un mode de vie qui nous permet justement dans un monde qui est un monde matériel, qui est un monde où on n'est pas forcément naturellement porté à s'élever, eh bien qui nous invite à nous élever. Et pour nous inviter à nous élever, eh bien c'est trouver un petit peu cette voie, trouver cet équilibre, trouver, nous dira le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, trouver une aspiration. Je parlais tout à l'heure d'un second souffle, une aspiration qui nous accompagne, qui est une aspiration justement à faire le bien. Si l'homme ne vit pas dans une aspiration, eh bien, nécessairement, il en vient à s'engager un moment dans une voie qui n'est pas la bonne. Or, le Kedoshim Tiyu, lorsqu'on nous dit « soyez séparés », c'est-à-dire « appréhendez votre vie » dans le sens d'une vie dans laquelle il doit y avoir des balises. Une vie dans laquelle, eh bien, vous vous engagez dans un chemin qui est tracé. C'est extrêmement important. La Torah nous donne justement la possibilité d'avoir des éléments qui nous permettent de structurer cette existence, de structurer cette vie, de savoir exactement finalement où marcher, où s'engager.
Et
ça, c'est extrêmement important. Exactement. Et donc, il est vraiment important finalement que cette vie soit structurée, mais qu'elle le soit en permanence finalement. C'est intéressant que le mitzvot de Kedoshim Tiyu n'est pas retenu dans les mitzvot positifs par le Sefer à Chinuch. Mais pour autant, donc, le Kedoshim Tiyu, en réalité, est une injonction en réalité perpétuelle. Kedoshim Tiyu, c'est pas une injonction d'un instant, c'est une aspiration qui doit nous accompagner continuellement, perpétuellement, de manière à ce que l'on puisse finalement progresser. On verra que le rapport qui existe entre cette injonction générale qui intervient au début de la parasha de Kedoshim et les mitzvot qui vont suivre, eh bien, elle est finalement toute trouvée. C'est les mitzvot qui nous seront dictées par la suite sont une manière.
C'est la question que je vous posais. Quand on lit la parasha, ce qui est intéressant, c'est que on passe souvent d'un sujet à un autre sans axe directeur. On parle de ça, après de ça. Il y a un axe dans cette paracha.
Alors, un axe directeur, je l'ai quand même soufflé tout à l'heure. Si on parle de la paracha en deux parties. La fin, bien sûr, qui est plutôt sur la partie avec un certain nombre de rappels concernant la gravité des relations interdites. Le début, c'est quand même un enchaînement sur des mitzvot, donc principalement consacré au rapport entre l'homme et son prochain. Et donc, bien sûr, alors dans plusieurs cadres, on va l'avoir dans le commerce, on va l'avoir dans le rapport que l'on doit entretenir avec les plus démunis, mais il y a malgré tout une ligne directrice qui est celle du rapport aux autres, de la notion de Ben Adam Lachavero.
Alors, vous l'avez dit, il y a beaucoup de commandements dans cette paracha, et il y en a plein qu'on connaît, qui sont revenus, notamment lors des 10 commandements. Et souvent, on associe deux commandements celui de respecter ses parents, qui est la première notion. Et la deuxième notion, c'est justement la notion de, on va dire, de justement de relations interdites. Il y a un rapport entre les deux.
Alors, le troisième verset de la Torah, enfin de la Torah de notre parasha plus exactement, nous dit « Ish imo ve'aviv tirahu ve'tshabtotai tishmoru ani Hashem Elokechem ». Donc chacun, sa mère et son père, vous craindrez, mais Shabbat, vous observerez. Donc on ne voit pas le rapport, a priori, qui existe entre ces deux mitzvot, puisque l'une concerne le rapport qu'on entretient avec ses parents, donc a priori, on est plus dans le Ben Adam, la Chavero, le rapport entre l'homme et son prochain, quoique je vous rappelle quand même que la mitzvah, dans les 10 commandements qui concernent à respecter ses parents, se trouve du côté droit, donc ouais, avec les rapports qui régissent les lois entre l'homme et Dieu, et une autre mitzvah qui concerne le Shabbat. D'ailleurs, vous avez dit que souvent ces mitzvot sont ensemble, dans le même verset, je rappelle quand même que dans les 10 commandements, eh bien, la mitzvah du respect des parents, elle suit immédiatement celle du Shabbat. Donc, ce n'est pas dans le même verset, mais c'est intéressant de voir qu'il y a une juxtaposition entre ces deux commandements. Et surtout, donc, je vous le dis, maintenant, je ne vais pas faire un cours sur les 10 commandements, mais c'est toujours intéressant. C'est bien sûr une question qu'on avait posée au moment donc, de la parasha Titro, de comprendre pourquoi est-ce que cette mitzvah qui enjoint l'homme de respecter ses parents se trouve du côté droit et pas du côté gauche, alors qu'a priori, eh bien, il n'y a pas plus mitzvah ben adam la chavero, il n'y a pas plus grande mitzvah qui régit les rapports entre l'homme et son prochain que le respect dû aux parents. Or non, on l'a mis dans la catégorie du respect dû à Dieu. Pourquoi ? Parce qu'indirectement, et là aussi je m'inspire du commentaire magistral du Rav Shimshon Raphaël Hirsch, lorsque l'on respecte ses parents, eh bien, on s'initie en quelque sorte à respecter Akadosh Baruch Hu, à respecter son projet. Je m'explique, ça répondra en partie à la question que vous avez posée, le rapport qui existe entre la mitzvah du respect des parents et celle du Shabbat. Nous dit le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, ces deux mitzvot, ces deux commandements, eh bien, sont deux grands principes qui permettent de structurer l'homme dans sa vie et dans le rôle qui est le sien dans ce monde, et surtout dans le sens, finalement, de la création. C'est au travers du respect de ces deux commandements que l'homme peut véritablement s'inscrire dans ce que l'on appelle le projet divin. La première à laquelle l'homme est confronté, nous dit le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, c'est le respect dû aux parents. Un enfant, eh bien, par définition, en tant qu'enfant, va être confronté au rapport qu'il entretient avec ses parents. C'est la première chose, dès sa naissance, même s'il est encore un bébé, dès qu'il commence à grandir, eh bien, il est immédiatement dans un rapport ici de soumission, mais au sens noble du terme, c'est-à-dire apprendre finalement à mettre de côté, eh bien, parfois ses propres aspirations, sa propre volonté, pour pouvoir se soumettre à ses parents. On le sait, c'est une mitzvah qui dépasse largement le cadre de l'enfance, puisqu'un enfant, toute sa vie, a l'obligation de respecter ses parents, et d'ailleurs, même après leur mort. Donc, on voit que c'est une mitzvah, en réalité, qu'on a l'occasion d'accomplir toute notre vie, et même à l'âge adulte, avec des lois extrêmement précises, puisque le respect donc dû aux parents va très très loin. Alors, bien sûr, on la met en perspective avec celle du Shabbat, puisque le Midrash, et c'est l'explication, on va dire, en principe, la plus élémentaire, la plus simple, ce qui nous dit le respect dû aux parents va jusqu'à une certaine limite. Cette limite ne doit pas pousser l'homme à transgresser les autres commandements comme le Shabbat. C'est-à-dire que si l'homme, finalement, pour respecter ses parents, choisit de mépriser les rapports qu'il devrait entretenir avec Dieu, eh bien, finalement, c'est contre-productif. Donc, pas question, si tes parents te demandent de transgresser Shabbat, refuse. Là, tu dois mettre le holà, tu dois refuser. Mais le Rav Hirsch, lui, vraiment, les comprend comme quelque chose de complémentaire. Il ne nie pas, bien sûr, l'évidence de ce midrash que l'on vient de rappeler, et cette mise en perspective de ces deux mitzvot, mais il les voit comme quelque chose de complémentaire. C'est-à-dire, ce premier rapport que l'homme va entretenir avec cette notion de soumission, et donc cette capacité finalement à éliminer sa propre volonté pour pouvoir accomplir celle de ses parents. Et c'est donc finalement aussi reconnaître, je le disais il y a un instant, l'importance de la création. Parce que finalement, lorsque mes parents donnent la vie, eh bien, ils ne donnent pas la vie uniquement, j'ai dit, simplement pour donner la vie ou pour assouvir leurs désirs. Ce n'est pas du tout comme ça que nous comprenons le projet ici de la vie et le projet de la naissance dans la Yahdout. Donner la vie, lorsque ça s'inscrit dans le cadre du couple, lorsque ça s'inscrit dans un projet justement qu'on appelle le projet de la Kedusha, eh bien, c'est permettre au monde de continuer à exister et permettre au projet divin de se dérouler. Donc le rapport parent-enfant, c'est ça finalement, c'est l'expression d'un projet divin qui continue à se dérouler. Lorsque les parents donnent la vie, ils ne donnent pas simplement la vie à un enfant, ils donnent la vie à un être qui va pouvoir continuer lui-même à construire et à accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu.
Alors dans la parasha, il y a une phrase qui est utilisée à tort et à travers, « Aime ton prochain comme toi-même ». Ça pour moi, je ne comprends pas, je ne pourrais pas aimer quelqu'un d'autre plus que moi, mis à part vous.
Alors justement, c'est pour ça qu'on dit Kamocha, comme toi et pas plus que toi-même, ça va jusqu'à un certain, ça va jusqu'à un certain point. D'ailleurs, il y a une traduction bien connue de du grand André Néer, Zichrono Livracha, qui lui disait Avta Lerecha Kamocha, tu aimeras ton prochain, parce que Recha, on a tendance à le traduire par celui qui t'est proche, Kamocha comme toi, par en réalité tu aimeras ton lointain, plutôt comme toi-même, c'est-à-dire la capacité à aimer celui qui ne nous ressemble pas, pas celui qui est proche de nous, c'est celui qui est proche de nous, avec notre égocentrisme et avec parfois cette petite tendance naturelle finalement qu'on a à s'admirer ou à s'auto-congratuler. Eh bien, on a beaucoup de facilité à l'apprécier.
C'est quelqu'un de la famille, voilà. Alors
ton prochain, c'est pas forcément quelqu'un de ta famille. Ton prochain, c'est même l'autre. C'est ton alter ego. Ton prochain, c'est autrui. C'est même, donc, comme disait André Néer, même celui qui, en réalité, ne partage pas forcément les mêmes aspirations que toi, eh bien, avoir cette capacité, finalement, aussi à l'aimer. J'aimerais, si vous me le permettez, Jean, vous proposer encore une autre explication, un peu plus originale, pour sortir des voies classiques que l'on emprunte, en principe, pour expliquer ce verset qui a été commenté et surcommenté. C'est un commentaire chassidique qui est directement lié à la période du Homer. Nous le savons, il y a toujours énormément de surprises lorsque nous voyons que ce sont précisément les élèves de Rabbi Akiva qui ont été touchés pendant la période du Homer. Pourquoi, nous dit la Gemara dans Yavot, Shelo Nahagu Kavod Zelazé, par manque de considération les uns envers les autres. Or, ce sont précisément les élèves de Rabbi Akiva qui, pourtant, est celui et le Tana qui a dit Ve'avta l'erecha kamocha zeklal gadol batora. C'est lui qui nous enseigne que cette mitzvah qui consiste à aimer son prochain comme soi-même est une mitzvah extrêmement importante, comme il le disait, zeklal gadol batora. C'est un principe immense dans la Torah. Et donc, on imagine à quel point Rabbi Akiva, qui en faisait un principe fondamental, eh bien, enseignait quotidiennement cette notion de Ahavat Azulat, cette notion d'amour du prochain. Donc, comment comprendre que celui qui justement avait voué sa vie à l'accomplissement de cette mitzvah et à l'enseignement de ce commandement, du respect et de l'amour que l'on doit à son prochain, que ce soit précisément ce Tana qui a été frappé par cette tragédie et le manque de considération que ses élèves ont eu pour son enseignement. C'est quelque chose de troublant. Eh bien, on peut le comprendre de cette manière, Ve'avta l'erecha kamocha zeklal gadol batora, parce que nous dire c'est un grand principe dans la Torah, c'est quelque chose qui paraît un petit peu élémentaire, et on ne voit pas ce que Rabbi Akiva rajoute lorsqu'il, lorsqu'il reprend mot à mot ce verset de la Torah, en simplement en rajoutant le fait que c'est un grand principe dans la Torah. Oui, il y a beaucoup de grands principes dans la Torah. Zeklal gadol batora, c'est pour nous dire que batora, lorsque tu étudies la Torah, lorsque tu es amené à enseigner ou lorsque tu es amené à partager un enseignement avec ton binôme, eh bien, tu dois être capable aussi, ve'avta l'erecha kamocha, d'introduire dans ce rapport que tu as au limoud, à l'étude, eh bien, d'introduire aussi l'amour que tu dois au prochain. Ce n'est pas deux choses que l'on vit de manière séparée. Aimer son prochain, c'est pas simplement aimer son prochain dans le cadre en lui rendant service. C'est aussi être capable de l'aimer au travers de l'enseignement. Lorsque j'étudie avec mon prochain, c'est être capable d'entendre que dans ce qu'il me dit, même si c'est différent peut-être de ce que je pense, même s'il partage une position différente, eh bien donner aussi de la considération à ses propos. Pareil, lorsque je transmets, ne pas vouloir transmettre simplement pour étaler mon savoir, mais véritablement par la volonté que j'ai de grandir l'autre, par la volonté que j'ai de le voir s'élever. Ça, c'est l'amour justement du prochain que l'on peut mettre aussi dans le limud Torah. Et c'était cela, d'après un grand enseignement chassidique, le chidouche, en quelque sorte, l'enseignement novateur de Rabbi Akiva. Ve'avta l'erecha kamocha zeklal gadol batora. Aimer son prochain, c'est pas simplement une mitzvah que l'on accomplit dans des rapports autres justement que celui que l'on entretient avec la Torah, c'est même dans le rapport que l'on entretient à l'autre au travers du limoud, même lorsque l'on entretient un rapport à, finalement, qui a l'air de s'inscrire uniquement dans celui qui régit les rapports entre l'homme et Dieu, et bien être capable aussi là-dedans de mettre de l'amour du prochain.
Je voulais qu'on reste deux minutes sur la dernière partie de la paracha sur les relations interdites. Pourquoi on le répète et pourquoi c'est si particulier? On ne pourrait pas faire une loi générale en disant voilà, ça et ça, c'est interdit, hop, on passe.
Il y a au travers de ce passage, là encore une fois, quelque chose de fondamental. Je parlais et je crois que ça fait parfaitement écho à ce qu'on a vu au tout début de la paracha. Tout début de la paracha, troisième verset, alors qu'on vient de nous demander d'être saint, entre guillemets, traduction, ouais, encore une fois, mauvaise traduction, mais comme d'être kedoshim, d'être séparé, comme l'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Et par quoi on a introduit cette paracha et ce premier commandement? Par l'obligation de respecter ses parents. Donc on l'a dit, la sacralité d'une vie, tout à fait partir d'une vie qui est vouée finalement à un projet. C'est ça ce qui est important. C'est pas simplement une vie matérielle, mais c'est une vie qui dépasse de très très loin la vie matérielle. Lorsque des parents, encore une fois, qui s'inscrivent dans le cadre du couple, dans le cadre du mariage, de la sacralité du mariage, décident de donner la vie, ils ne donnent pas une vie physique, ils donnent un projet. Ils font un enfant qu'on va éduquer avec justement des mitzvot, qui va s'inscrire dans, comme un maillon, comme un énième maillon finalement d'une chaîne qui est ininterrompue depuis maintenant plus de 3 millénaires, depuis le don de la Torah, et il sera un maillon supplémentaire. Donc il y a un projet, c'est exaltant finalement de se dire que soi-même en tant qu'enfant, on sera le maillon de cette chaîne, et que lorsque nous donnerons à notre tour la vie, eh bien cette vie-là s'inscrira aussi comme un maillon supplémentaire. Donc il y a une sacralité ici de la vie, appréhendée telle que la Torah donc le conçoit. Et comment est-ce qu'on termine cette paracha? Avec l'interdiction de s'attaquer et d'abîmer cette notion finalement d'équilibre familial, de vie. Toutes les interdits dont on nous parle à la fin, parce que chacun finalement renferme en lui quelque chose de tout à fait particulier, quelque chose de négatif, quelque chose qui peut amener à détruire cette cellule familiale. Et c'est la raison pour laquelle on doit les énoncer un par un. Il y a au travers de chacun, malheureusement on n'a pas le temps maintenant de faire l'analyse, de faire l'exercice pour chacun de ces versets, mais il y a au travers de chacun de ces interdits quelque chose d'extrêmement destructeur, quelque chose d'extrêmement pernicieux qui en vient à détruire la cellule familiale. Cette cellule familiale que l'on encense au début de la paracha, au travers de cette obligation de respecter ses parents, et en tout cas de cette relation en réalité à double sens qui existe entre les parents et les enfants, ce que les enfants renvoient aux parents, ce que les parents renvoient aux enfants. Donc vraiment un encensement finalement de la cellule familiale et de l'équilibre familial, et la fin de cette paracha qui nous parle de tout ce qui peut amener à la destruction de cet équilibre familial. Et donc je trouve que finalement on a un plan extrêmement intéressant dans cette paracha de Kedoshim, entre le début de cette paracha à la fin, et encore une fois toutes les autres mitzvot donc directement liées que l'on trouve au milieu de cette paracha. Voilà.
Pour une fois, on sera à l'heure. Merci, monsieur le grand rabbin. Shabbat shalom et shabbat shalom à vous tous. Merci à Robin pour la réalisation technique. Shabbat shalom. Rendez-vous la semaine prochaine, si Dieu veut.
Super. Merci beaucoup. Hein. Bonne journée. Bon après-midi. Bon week-end. Shabbos Kodesh, Shabbos Kodesh, Yidelech prepare for Shabbos Kodesh, joy is in the air for Shabbos Kodesh, everyone with a soul aflame to meet the Shabbos Kodesh, everyone with a role to play to greet the Shabbos Kodesh, a priceless gift, a spiritual lift, everyone finds a way to assist, do whatever they can do for the Shabbos Kodesh.